est une rediffusion. Restez à l'écoute.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, mentir au travail. Bonjour Duarte Rollo.
Bonjour.
Vous êtes psychologue du travail et vous avez enquêté pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, sur le mensonge organisé en système de management pour vendre davantage, notamment dans les centres d'appel. Les employés sont en principe des conseillers de clientèle. Dans la réalité, ils disent se retrouver contraints de forcer à la vente pour remplir les objectifs fixés et chiffrés par la direction. De leur côté, les clients consommateurs sont passés, je dirais, de la naïveté à la méfiance. Vous avez publié un essai assez remarqué qui s'appelle « Mentir au travail ». La logique s'étend en fait à presque tous les secteurs professionnels dans une optique de rentabilité. On pense bien sûr à Volkswagen avec son mensonge industriel. Également dans le studio de 7 milliards de voisins, Isabelle Barthes, bonjour.
Bonjour.
Vous avez enseigné entre autres le management commercial et vous dirigez l'école de management de Strasbourg. Les questions d'éthique évidemment préoccupent beaucoup les écoles de commerce aujourd'hui. Vous nous direz si les nouvelles méthodes de management mènent aujourd'hui sciemment jusqu'au mensonge. Le mensonge économique, finalement, a-t-il définitivement balayé l'honnêteté au travail? Appelez-nous, les voisins, si vous vous sentez peut-être d'abord un consommateur, un client, victime d'arnaques, de mensonges, ou si vous êtes vous-même obligé de mentir au travail. Je vous donne notre numéro de téléphone, c'est tous les jours le même, 33 1 84 22 71 71. Je répète, 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages qui nous sont parvenus sur les réseaux sociaux. Stéphane qui est à Cotonou, au Bénin. Au cours de ma formation en gestion commerciale, on nous a enseigné d'être honnête quand on effectue une présentation de produit. Mais je vous assure, la réalité, nous dit Stéphane, n'est pas du tout la même. Nous nous retrouvons tellement souvent dans l'obligation de mentir car il faut vendre et notre revenu dépend de ce chiffre-là. Mamadou lui est à N'Djamena, au Tchad. Il nous dit au Mali, les agents commerciaux sont obligés de mentir. Sur les marchés, les commerçants, les grossistes n'hésitent pas une seconde à mentir pour vendre leurs produits. Moi-même, j'ai été victime de cela une fois. Une vendeuse ambulante m'a fait acheter ce que je pensais être du dentifrice. J'en avais besoin. Une fois rentrée chez moi, je me suis rendu compte que c'était du baume à lèvres dans le tube. Bon, ça c'est le mensonge du commerçant. Il a toujours existé depuis la nuit des temps, hein, Duarte Rollo.
Oui, tout à fait. Enfin, je veux dire, ce qui est un petit peu nouveau aujourd'hui, ou un petit peu différent, c'est que ce n'est pas une pratique ponctuelle, ce n'est pas une pratique qui est
individuelle,
spontanée, une initiative des salariés ou des commerçants, mais quelque chose qui est vraiment organisé, ouais, et fortement induit par un certain nombre de contraintes.
Je vous lis un autre message, celui de Moussa, qui pose la question, est-il réellement possible de faire du marketing sans mentir? Il faut être un excellent menteur pour s'occuper du volet commercial d'une entreprise, sinon on est viré. Ou encore un autre message de Sunia N'Djamena, mentir au travail, c'est ce qu'on appelle les manœuvres dolosives, à savoir les manœuvres frauduleuses. On voit tellement souvent, nous dit Sunia, des publicités mensongères de nombreuses entreprises. Cette pratique est courante. Voilà, ça c'est vraiment le témoignage d'un client, d'un consommateur qui se sent floué. Appelez-nous maintenant pour en discuter de vive voix, mentir au travail, 33 1 84 22 71 71, que vous soyez un client victime ou un salarié victime de ces injonctions sur le mensonge. Duarte Rollo, Isabelle Barthes, je vous lis aussi un dernier message, je crois qu'il faut commencer par là, vu l'actualité. Arsène à Ouagadougou, au Burkina, qui nous dit « Mais parlons tout simplement du cas Volkswagen ». Ça, c'est mentir au travail, mentir à sa clientèle. Je rappelle que après l'affaire du logiciel Trucker qui permettait de sous-évaluer les émissions d'oxyde d'azote, maintenant, ça touche d'ailleurs aussi les marques Porsche et Audi, Volkswagen avoue aussi avoir affiché des niveaux d'émissions de CO2 trop bas sur une partie de sa gamme de voitures. Et le constructeur a aussi annoncé le rappel de plus de 91 000 véhicules pour une défaillance technique susceptible d'altérer le freinage. On se demande jusqu'où cela va aller. Que vous inspire l'affaire Volkswagen, Duarte Rollo?
Moi, j'ai un peu l'impression qu'on a ouvert la boîte de Pandore, si vous voulez, qu'on a finalement révélé au grand jour du prix des systèmes de contrôle de qualité, si vous voulez. C'est-à-dire que la plupart de ces méthodes de certification et de contrôle de qualité sont basées sur une cascade de mensonges. Puisque
c'est censé être au contraire une cascade de protection pour le client.
Justement, c'est ce qui est affiché. Mais la vérité, c'est que dans la mesure où, en gros, pour pouvoir mettre un produit sur le marché, vous êtes obligé d'afficher une qualité totale ou un zéro défaut, ce qui, tout le monde le sait, est totalement impossible, en fait, ça pousse tout le monde à remplir les bilans, à remplir les rapports de façon élogieuse, de façon à correspondre à ce qui est attendu et pas... en fonction de ce qu'est la réalité du travail.
Isabelle Barthes.
Alors moi, ce qui m'interpelle beaucoup dans cette affaire, mais qui m'a interpellée aussi, par exemple, avec les implants mammaires, puis ce qui était encore plus grave, hein, parce que là, on est sur du risque vital, la voiture, c'est pas tout à fait la même chose non plus, c'est en fait le déni dans l'organisation. C'est-à-dire qu'on est capable, dans une organisation, d'avoir un déni, une dissimulation, un silence absolu, alors que tout le monde sait. Moi, je crois pas à l'organisation désincarnée. Je n'ai jamais serré la main à une organisation ou à une entreprise. Je serre la main à des hommes et des femmes. Ça veut dire que des hommes et des femmes ont pris la responsabilité en conscience de se taire et ou d'organiser en effet ce mensonge. Et ça, ça m'interpelle parce que je me dis que chacun a quand même la liberté de citoyen, de salarié d'entreprise, d'exercer ce qu'on appelle son droit de vigilance, qu'on appelle le whistleblowing.
Et là, être un lanceur d'alerte. Beaucoup de risques
Mais avec des risques qui ne sont pas si importants que ça, parce qu'il y a dans toutes les entreprises, dont le Volkswagen, des possibilités de numéros anonymes où on peut faire valoir des choses.
Enfin, aujourd'hui, les salariés qui dénoncent l'évasion fiscale dans les milieux bancaires se retrouvent entendus par la justice.
Ce que je veux dire, c'est que à ce niveau-là de malfaçon, de mensonge, il y a quand même des personnes qui, j'imagine, se lever le matin en ayant des nœuds à l'estomac. On va être très, très trivial en se disant mais comment je peux continuer à travailler en sachant cela. Et je suis épatée de l'omerta, c'est-à-dire qu'il y a des salariés qui se croient, je pense en effet, sur des injonctions de silence, au nom de quoi au nom de quoi on imagine qu'en effet un système de qualité doit mentir. Et je pense que véritablement qu'on peut travailler différemment. La transparence absolue, je crois, relève du fantasme. Et est-elle nécessaire et possible? Mais ce mensonge organisé, moi, me pose problème. C'est-à-dire que les gens sont dans une soumission et ont une vision de leur entreprise qui ne devrait pas être celle-là.
Mais alors comment, Duarte Rollo, vous vous en êtes arrivé à constater finalement que le mensonge était aujourd'hui un sujet central dans l'exercice de pas mal de métiers? Vous avez choisi de travailler sur les centres d'appel, mais c'était un peu par hasard finalement?
Disons que j'ai l'impression que le sujet s'est imposé à moi plus que je l'ai choisi, si vous voulez. Puisque moi, ce qui m'intéressait, c'était comment les transformations actuelles du monde du travail peuvent avoir un impact sur la vie des gens et notamment sur leur santé. Et en commençant à enquêter, en me penchant un petit peu sur un certain nombre de choses qui aujourd'hui deviennent très prégnantes dans les entreprises, les systèmes d'évaluation, les contrats par objectif, les pressions commerciales, je me suis rendu compte que la combinaison de tous ces facteurs donner un certain nombre de pratiques assez surprenantes, dont le mensonge.
Les employés des centres d'appel, donc des plateformes téléphoniques, on s'attend a priori à ce qu'ils se plaignent de la déshumanisation du travail, des cadences qui sont très soutenues. En fait, c'est pas ça qui émerge.
Alors j'avoue qu'en tout cas, dans les endroits où j'ai enquêté, et j'étais moi-même assez surpris, je m'attendais effectivement à une plainte ou à un discours sur
les
forme de robotisation. Et en fait, de façon assez surprenante, c'était plutôt des questions éthiques qui étaient posées. C'est-à-dire, on fait un sale boulot, on fait un travail qui ne nous convient pas, on trompe des clients, et c'est pas ça le boulot de conseiller clientèle.
Conseiller clientèle, en réalité, ils disent nous ne faisons pas le travail d'un conseiller clientèle, alors qu'on nous dit, soi-disant, que nous sommes des conseillers clientèle, c'est ça? On nous demande d'être des vendeurs à tout prix.
Alors c'est vrai que
quel prix.
Moi, j'ai surtout enquêté auprès de gens qui sont dans des services, qui sont des services après-vente, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des réclamations, qui sont dans du dépannage, des métiers assez techniques, si vous voulez, et qui ont quand même un certain nombre d'objectifs commerciaux. C'est-à-dire que quand le client appelle et qu'il veut rien acheter, il faut quand même lui vendre quelque chose.
Donc vous êtes censé servir le client. Et en réalité, votre manager vous demande plus ou moins directement de le desservir.
Alors, Oui, parce qu'en plus, il faut dire que ces ventes sont très fortement orientées. C'est-à-dire qu'on va pas forcément. Le problème n'est pas vendre au client. S'il a besoin d'un produit, le problème, c'est qu'il faut lui vendre ce que l'entreprise nous demande de vendre, c'est-à-dire des produits prioritaires. Aujourd'hui, ce sera un BlackBerry, demain un Nokia, un nouvel abonnement ou un nouveau contrat d'assurance. Et donc, on va proposer, puisque les services marketing vont lancer un certain nombre de campagnes et d'offres promotionnelles, on va proposer des produits qui n'ont pas forcément d'utilité pour le client, ou en tout cas qui ne correspondent pas du tout à la demande du client.
Ça va jusqu'où dans les témoignages des salariés, ça?
Ça peut aller jusqu'à forcer des abonnements Internet pour des vieilles dames qui n'ont même pas de possibilité de se connecter à Internet, parce qu'elles habitent dans un village assez excentré, etc.
Il y a aussi beaucoup de mensonges par omission.
Alors, il y a une partie de mensonge par omission au sens où on cache des informations qui pourraient être dissuasives. C'est-à-dire qu'on va cacher au client un certain nombre de désavantages. Ça nous est arrivé, c'est arrivé à la plupart d'entre nous, d'appeler pour faire une modification sur son contrat auprès de son fournisseur de téléphonie et puis de se voir rajouter un an ou deux ans de contrat sans forcément l'avoir demandé.
Isabelle Barthes, évidemment, là on est en plein dans les questions d'éthique professionnelle. Pourtant, l'éthique est largement énoncée dans les entreprises interne.
Alors, tout à fait. Mais moi, je crois que
c'est pas un sujet tabou du tout.
Pas du tout, non. Je crois que ce qu'on décrit là, d'abord, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'on commence à le dire. Parce que ça a toujours existé. Le mensonge dans l'entreprise, comme dans le monde politique, a toujours existé. Et la très bonne nouvelle, c'est que grâce aux réseaux sociaux, tout maintenant est transparent. On le voit avec Volkswagen que vous avez évoqué. On a maintenant sur les réseaux sociaux des résonances de mise en question, de souffrance, de dénonciation très importantes. Donc ça, c'est l'excellente nouvelle. Il y a vraiment un contre-pouvoir qui s'est mis en place. Et la parole est libérée. Donc ça, parce que ça a toujours existé. Ça, déjà, il faut se dire, et c'est une bonne nouvelle. La deuxième chose, il y a toujours eu, je ne sais pas si ça s'est intensifié, je pense que oui, à cause de gouvernance financière, etc., l'opposition entre le court terme et le long terme. Ce que décrit Duarte, c'est vraiment la vente à court terme. Le client, un bon vendeur, c'est qu'un client avec qui on réussit une vente à très court terme, si cette vente est déceptive, il ne reviendra pas. Il ne sera pas fidélisé. Or, le problème des entreprises un peu intelligentes, c'est la fidélisation. Et c'est la qualité, c'est le bouche à oreille. Donc là, on est aussi sur de mauvaises pratiques commerciales et qui ne pensent pas à la durée de la relation à long terme.
Si vraiment c'était de mauvaises pratiques commerciales, ça serait pas, le mensonge ne serait pas érigé à ce point-là.
Mais vous êtes la première en tant que consommatrice. Si vous n'êtes pas contente d'un service ou d'un produit, d'abord à le ramener, parce qu'il y a quand même maintenant des protections du consommateur qui sont fortes là-dessus, et à dire je n'y reviens pas et je le fais savoir. Donc une entreprise qui a tout petit peu d'intelligence stratégique, elle travaille sur le long terme. Et là, on est vraiment sur le court terme. Et la dernière phénomène que décrit Duarte, mais qui existe, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des mauvaises pratiques managériales et ce n'est pas des pratiques qu'on a envie de transmettre. C'est que les personnes sont en effet en dissonance éthique. C'est-à-dire qu'elles vivent, on leur demande ce que vous appelez l'injonction paradoxale, c'est ça, de faire des choses qu'elles réprouvent en leur fort intérieur. Moi, j'ai travaillé là-dessus aussi. C'est vrai que c'est des personnes à qui on dit, mais mettez-vous à la place du client, et qui disent, mais si je me mets à la place du client, jamais je ne lui propose ce produit ou service. Et ce que vous évoquez, évidemment, on l'a vu, l'assurance vie à la personne très âgée, la connexion Internet qui n'existe pas.
Alors, mauvaises pratiques sont-elles pour autant rares? Il semble-t-il tout de même, en plus à la lumière des témoignages qu'on reçoit, c'est quand même assez généralisé. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On vous donne la parole dans quelques instants, les voisins, les voisines.
7 milliards de voisins. C'est vous qui faites l'émission.
Alors bien évidemment, si vous êtes salarié dans des centres d'appel, appelez-nous aussi, bien évidemment. Mais si vous êtes client, tout simplement, vous vous sentez floué. Nous sommes en ligne avec Sohibou, qui a 25 ans, qui est à Dakar. Bonjour Sohibou.
Bonjour Emmanuel.
Sohibou, vous êtes étudiant et vous vous êtes retrouvé à pratiquer des petits boulots pour financer vos études. Vous vous êtes retrouvé à mentir dans votre travail récemment?
Oui, c'était l'année dernière. Au cours de l'année, j'avais eu des problèmes de financement pour mes études. Dans ce cas, j'ai été obligé d'aller voir une agence pour prendre des produits, aller sur le terrain et les vendre.
Donc vendre des produits en porte-à-porte, quel type de produits?
Ce sont des produits cosmétiques venant d'Allemagne. Ce sont des produits cosmétiques venant d'Allemagne. C'est une entreprise sénégalaise qui a dû aller en Allemagne prendre des produits. dont l'inspiration n'était pas lointaine. Et quand ils ont amené les produits au niveau du Sénégal, ils ont dû recruter des étudiants pour... des étudiants, ceux qui sont motivés pour aller sur le terrain les vendre. Et moi, j'en faisais partie.
Et qu'est-ce que ça posait comme problème?
Parce que souvent, une fois quand j'ai été vendre, c'est le client même qui m'a fait me remarquer que mon produit était déjà expiré. Et franchement, j'ai été complexé, j'ai été ébahi, parce que je ne savais pas que le produit était expiré. C'est l'entreprise qui nous a caché la date d'expiration du produit, ils ne nous avaient pas communiqué. Et enfin, quand on a su, on était obligé de continuer la vente parce qu'on avait déjà commencé. Et souvent, on allait, ça dépend, on choisissait la cible. Mais souvent, la cible était instruite, elle regardait le produit, elle voyait que le produit n'était pas utilisable dans un mois, deux mois. Souvent, il y avait des problèmes.
C'est-à-dire des problèmes. Vous-même, vous étiez en difficulté avec vos clients?
Parce que souvent, on perdait des clients. Normalement, quand on vend des produits, c'est pour le long terme. C'est-à-dire pouvoir vendre au même client pendant deux ou trois ou quatre fois ou bien même à l'infini. C'est-à-dire quand on perd un seul client, c'est qu'on a perdu beaucoup de clients parce que la communication par bouche à oreille aussi, ça passe beaucoup. Quand vous vendez un produit de mauvaise qualité à un client, il a certainement des proches, il va divulguer le...
Donc finalement, vous pratiquiez le mensonge parce qu'on vous avait menti à vous-même, et puis ensuite, ce mensonge s'est transmis jusqu'au client. J'imagine qu'il y a des clients qui ne se rendaient jamais compte qu'ils avaient acheté un produit cosmétique périmé.
Ouais, il y avait des clients qui ne se rendaient pas compte parce que moi aussi, j'utilisais mes techniques, mon marketing pour pouvoir vendre parce qu'il y avait des clients qui n'étaient pas instruits. Ils savaient juste de faire un petit test sur la peau, par exemple, si c'était un shampoing, vous montrez que ça allait plus que ça.
Mais qu'est-ce que vous ressentiez, vous, Sohibou, quand vous parveniez à vendre avec succès des produits dont vous saviez qu'ils étaient périmés?
Ouais, franchement, c'est assez compliqué. On sait que le client, on lui a pas dit toute la vérité. Entre-temps, on sait que on a son gagne-pain à côté. Et c'est la vie, ça continue.
Et ça veut dire que de temps en temps, vous vous posiez la question de continuer ce travail-là ou pas? Pourquoi vous avez arrêté d'ailleurs?
J'ai arrêté parce que l'entreprise n'a pas été honnête avec moi, c'est tout. Sinon, j'aurais bien voulu continuer de vendre parce que j'ai vécu beaucoup d'expériences. Il y a des gens qui
Ah oui, donc en fait, vous avez arrêté parce qu'on vous avait menti, mais pas parce que vous mentiez aux clients, finalement.
Non, c'est pas ça. J'ai arrêté parce que je ne pouvais plus, parce que l'entreprise n'était pas honnête avec moi. Et moi aussi, je me sentais dans l'obligation à chaque fois de m'excuser auprès des clients qui s'apercevaient que les produits n'étaient pas de bonne qualité ou bien que la date d'expiration n'était pas assez lointaine.
Isabelle Barthes,
ce que j'entends là, qui est une pratique qui existe, c'est qu'il y a un double effet de ce type de mensonge. C'est en effet le client qui ne vient pas racheter, on en a parlé, mais c'est la démotivation et le désengagement du vendeur, en l'occurrence. Et ce témoignage montre bien que on est sous-performant quand on est dans cette situation-là. Et je pense que l'entreprise, si elle est un tout petit peu, là aussi, sur le long terme et l'intelligence, elle se rend bien compte qu'elle a des commerciaux sous-performants.
Oui, un mot aussi sur ça. Moi, je pense que là, il y a aussi un élément supplémentaire, une dimension supplémentaire. C'est le cas où le vendeur est convaincu de son produit. C'est-à-dire qu'il est de bonne foi, si vous voulez, mais où, quelque part, l'entreprise derrière n'assure pas du tout la qualité du produit. Donc, le met en porte-à-faux vis-à-vis du client, ce qui, là aussi, le met en difficulté.
Et le démotive complètement. Il n'a plus envie. Il est mal. Et ça, on peut l'observer assez souvent. Ouais. Ça, c'est clair.
Sohibou, vous avez autour de vous d'autres personnes qui sont dans les mêmes cas de figure que vous, obligées pour conserver un emploi, de sciemment mentir dans des pratiques commerciales?
Certainement. Il doit y avoir des gens qui travaillent dans les mêmes conditions que moi. Malgré tout, ils continuent parce que ce sont les situations. Sinon, ça ne fait pas du bien de mentir à un client parce que dans tous les cas, dans le long terme, on ne peut pas...
On a bien compris, vous ne faisiez pas l'apologie du mensonge. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelés. Bonne journée à Dakar. Duarte Rollo, Isabelle Barthes, vous restez avec nous. On parle du mensonge au travail et bien sûr, ça pose les questions de l'éthique. Que vous soyez client, vous sentiez floué ou salarié, obligé de mentir sur votre lieu de travail, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. On se retrouve juste après le flash.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Suivre est une rediffusion. Restez à l'écoute.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Effectivement, le sujet du jour, c'est mentir au travail. Quelles conséquences pour les salariés? Quelles conséquences aussi quand vous êtes du côté du client? Vous nous appelez, bien sûr, les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71. Duarte Rollo, vous êtes psychologue du travail et vous avez publié cette étude tirée d'une thèse d'ailleurs de doctorat, Mentir au travail, aux éditions Presse Universitaire de France. Isabelle Barthes, vous êtes spécialiste du management, vous dirigez l'école de management de Strasbourg. Vous avez longtemps enseigné le management commercial, donc évidemment c'est un sujet qui vous interpelle, d'autant plus qu'aujourd'hui dans les écoles de commerce partout on est censé enseigner l'éthique. Et vous souhaitiez apporter d'ailleurs une précision par rapport au témoignage de Soibou qu'on a entendu tout à l'heure à Dakar, qui s'était retrouvé obligé de vendre des produits cosmétiques périmés.
Oui, ce que je disais, c'est qu'on pouvait très bien avoir une très belle activité florissante sur les cosmétiques périmés, à condition de ne pas mentir au client et de lui faire, par exemple, une remise prix. Et ça existe en France,
oui,
comme dans
fait.
Le monde.
C'est devenu une
Donc,
on,
si on est intelligent, on n'est pas obligé forcément de mentir.
Voilà, on est bien d'accord que les cosmétiques, ce ne sont pas des médicaments.
Alors là, ça serait complètement autre chose.
Et que donc, une crème périmée peut effectivement être tout à fait valable quelques mois après ça.
Comme ça existe sur le marché alimentaire aussi. Et on arrive à faire des choses très intéressantes. Mais en effet, l'idée, je crois, qui est exprimée, c'est qu'on dise des choses.
On est en ligne avec une ancienne responsable d'équipe chez un opérateur téléphonique. Bonjour Elsa Elio.
Bonjour.
Vous étiez une REC, comme on dit, hein, c'est bien cela?
C'est ça.
Responsable d'équipe?
Oui.
Vous avez travaillé dans un centre d'appel. Quels étaient les mensonges auxquels vous avez dû faire face exactement?
Écoutez, un des principaux mensonges lors de mon séjour donc dans nos centres d'appel consistait à vendre des bouquets de chaînes télévision gratuits officiellement, en omettant de dire aux clients que le premier mois seulement était gratuit et les autres mois allaient être donc engageants et payants.
Oui, donc le mot gratuit était clairement un mensonge par omission, donc un mensonge.
Oui, tout à fait.
Quelles étaient les conséquences?
Les conséquences, si vous voulez, en termes techniques, c'est un fort taux de rappel, donc des clients insatisfaits, des communications très difficiles, très dures, et une recherche dans l'immédiat de compensation financière. Donc, encore une fois, est-ce que c'était une stratégie sur le court terme valable? Moi, je me posais la question, puisqu'effectivement, l'entreprise pouvait, à terme, perdre même de l'argent, puisqu'on devait compenser les clients insatisfaits et les rembourser.
Alors, on dit que c'est contre-productif. Il faut quand même savoir qu'on a tous été victimes de mensonges éhontés dans les plateformes téléphoniques, notamment avec les opérateurs téléphoniques, moi la première, donc, et ça continue. Donc, je me pose vraiment des questions sur la capacité des managers, Isabelle Barthes, à comprendre la contre-productivité. Ça prouve que c'est pas si contre-productif
non,
que cela, en réalité.
Je pense que ce qu'on peut dire... Si, je pense que c'est contre-productif, mais je pense qu'il y a la question, c'est le management. D'abord, le management et la vision stratégique, ça s'apprend. Il y a beaucoup de personnes qui s'intitulent manager et qui n'en ont pas les compétences.
Non, mais c'est validé à plus,
ça,
au plus haut niveau chez les opérateurs téléphoniques.
Oui, alors, mais avec quelle vision? Et c'est ce que dit cette personne. C'est en effet, c'était peut-être une vision très court-termiste pour des raisons financières, pour des raisons de rentabilité à court terme. On revend l'entreprise. Voilà.
Et on peut bâtir des fortunes avec le court terme.
Oui, mais ça nous renvoie à une vision d'entreprise jetable. Moi, je pense qu'il y a une question. Là, on est dans l'irresponsabilité managériale. On travaille beaucoup tous sur la responsabilité managériale qui va avec le temps long. Et ça, il faut le dire. Mais ça n'empêche pas que dans toute activité, il y a une face obscure. Et en effet, là, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on pointe des très mauvaises pratiques qui sont la face obscure d'une sphère
qui
est quand même...
très nombreuses.
Oui, mais enfin, le très nombreux, je pense qu'en proportion, on n'a pas que ça dans la vie des entreprises. Je crois qu'il faudrait quand même se dire que ce n'est pas généralisé.
Oui.
Et c'est vrai qu'on grossit quand même un trait. Les call centers, ce qu'on appelle en recherche un biais de sélection. Les call centers, les opérateurs téléphoniques sont... Il y a quand même beaucoup d'entreprises familiales. Il y a des entreprises qui travaillent dans la confiance. Il y a aussi des marchés qui sont matures. Là, on parle de marchés de consommateurs tout
on
venant.
On n'arrive plus à vendre
des personnes âgées.
Ouais.
Alors non,
justement, Elsa Elio, vous êtes toujours en ligne avec nous. J'aimerais que vous nous disiez ce que cela provoquait aussi dans votre relation avec les consommateurs, avec les clients.
Alors, c'est-à-dire que moi, en tant que responsable, je ne prenais pas les appels. Mais effectivement, je rejoins là ce qui a été dit sur le rôle du manager. Il est évident que nous recevions des directives qui étaient questionnables en termes de stratégie, mais moi, au niveau de mon positionnement en tant que manager, et qui était une vision partagée par mes collègues, nous remettions en question à chaque fois les instructions qui étaient données par notre direction.
Ce qui est très très bien, parce que c'est une vraie responsabilité d'être capable de remettre en cause des directives qu'on désapprouve. Comment vous recevez quand vous faisiez ce type de remise en cause?
Clairement, c'était une menace de sortie de l'entreprise.
D'accord, ok.
Voilà.
Je pense qu'il faudrait dire un mot sur ça.
De trouver un moyen, un argumentaire qui était, selon nous, le plus conforme à nos valeurs et à nos critères. Oui.
Parce que vous étiez censé instaurer un rapport de confiance avec les clients. C'est bien pour ça que le client appelle, pour avoir une personne humaine au téléphone. Vous avez même les conseillers clientèle ont même un prénom, hein, je crois.
Tout à fait.
Et donc, en fait, le fait d'appeler vous induit en erreur parce qu'on vous ment, c'est ça, en tant que client.
Oui, c'est-à-dire qu'on avait un double discours. D'un côté, on nous demandait de personnaliser l'appel, de créer de l'empathie, de la confiance, d'appeler le client par son prénom, de donner notre prénom, et en fin d'appel, de terminer en clairement essayer de mener une opération frauduleuse et mentir au client. C'était ça.
Mais oui, moi je pense qu'il faudrait dire un mot sur ça, à la fois sur ce que vient de dire Isabelle et sur ce qu'on vient d'entendre. Moi, pour revenir un petit peu à la question de tout à l'heure, est-ce que c'est contre-productif ou pas, moi j'aurais tendance à la poser autrement. Contre-productif pour qui? Parce que bon, la grande difficulté là, et c'est un petit peu ce qui vient d'être souligné par ce témoignage, c'est que une bonne partie, alors sans vouloir généraliser, effectivement, tous les centres d'appel ne fonctionnent pas dans la même façon, mais les grandes structures sont quand même dans une logique de précarisation de la main d'œuvre. Et donc effectivement, les conseillers ou les téléopérateurs doivent vendre pour conserver leur poste. C'est ce qui fait que ces pratiques vont se généraliser de façon beaucoup plus rapide. Alors, un mot aussi sur tout le changement que ça provoque en termes de rapport aux clients, et en termes de rapport aux collègues, et en termes de rapport à l'entreprise aussi. C'est-à-dire que dans la mesure où tout le monde ment aux clients, ça devient difficile de faire confiance à qui que ce soit. C'est-à-dire que si votre collègue est un super menteur parce que c'est un super vendeur, vous avez quand même peu de raisons de lui faire confiance. Si l'entreprise vous demande de mentir au quotidien, vous avez quand même peu de raisons de lui faire confiance. Et c'est ce qui se passe avec les clients. C'est que les clients ne font plus confiance aux entreprises. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux parler pour moi, c'est-à-dire je ne fais plus confiance à mon banquier, à mon assureur. Je ne sais pas combien on est aujourd'hui à avoir un rapport de confiance avec des entreprises.
On est dans la société de la défiance. Oui, c'est ça, finalement.
C'est une ambiance de défiance généralisée.
Elsa Elio, pour quelle raison avez-vous quitté cet emploi?
Eh bien, écoutez, on a mis fin à ma période d'essai en prétextant justement mes mauvais résultats en termes de taux de fidélisation, donc qui est ce fameux curseur pour mesurer les ventes à travers les.
Vous pensez que c'est lié au fait que vous disiez que vous n'étiez pas d'accord avec ces pratiques-là?
Alors, pas directement. Moi, je l'ai surtout expliqué du fait de la rotation que j'ai eue sur l'équipe, puisqu'évidemment, ce genre de pratique, clairement, ça occasionne énormément de départs. Il y a des gens qui arrivent comme cela a été dit, à endosser ce rôle-là, à mentir, et ils le font de manière construite et argumentée. Il y a des gens qui vivent une crise de conscience au quotidien et donc qui quittent l'entreprise. Donc en termes de management, si vous voulez, direct à court terme, sur une équipe qui est en forte rotation, mes résultats n'étaient pas aux objectifs fixés.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Elsa Elio. Vous avez publié votre histoire, on peut la lire, tout le monde peut la lire, hein, sur le site racontezlavie.fr, récit dans un call center. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Très bonne journée.
7 milliards de voisins.
Le monde est un village planétaire.
C'est un village mondial. Donc on est tous des voisins, tous ensemble.
On est unis dans la diversité. Malgré toutes nos différences, il y a toujours quelque chose qui nous rapproche.
C'est l'amour, ça.
Voilà,
d'accord.
C'est l'amour.
Isabelle Barthes, vous souhaitiez réagir au témoignage
de cette ancienne
manager.
Oui, je voulais réagir sur la notion du turnover. C'est vrai que les call centers, bon, c'est un sujet que je connais très bien. On a eu encore dans mon labo, il y a quelques jours, une présentation. Il y a un turnover énorme. Ce n'est pas un projet professionnel d'être salarié dans un call center. Les gens y vont souvent par défaut, étudiants, personnes en recherche d'emploi, personnes qui cherchent... Voilà. Et ça aussi, il faut voir. Et la plus grande souffrance souvent, il faut le voir, c'est chez le management tel que cette personne le décrit, le management intermédiaire.
Mais on est bien d'accord, surtout si on reprend les témoignages qu'on reçoit,
non plus pour
on n'est pas non plus sur le sujet du mensonge, ne concerne pas spécifiquement les centres d'appel. Ça concerne les métiers qui sont soumis à des pressions économiques.
Alors vous pointiez la relation, ce qu'il y a, c'est que vous pointiez beaucoup la relation client. Mais c'est vrai qu'après, dans la relation managériale, je suis d'accord, il y a beaucoup, beaucoup de mensonges. Alors du mensonge, là, tel qu'on le pointait, qui est patent, déclaré. Mais moi, je pense que le vrai problème de l'entreprise et l'irresponsabilité managériale, elle va plus porter, comme je disais, sur le déni, c'est-à-dire le silence, la dissimulation ou l'oubli. Des salariés, quand on fait des enquêtes, souffrent beaucoup plus. Un gros mensonge, à la limite, on peut le dénoncer, on le voit, on en parle. Mais de quoi ils souffrent souvent ? C'est de l'oubli, le mail auquel on ne répond pas, le dossier qui est enterré, la non-réponse. Et ça va avec ce que vous disiez, l'absence de reconnaissance.
Du artérolo là-dessus, d'accord.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Hein. Je pense que, et puis par rapport au témoignage, il faut souligner le fait que beaucoup de salariés sont aux prises avec un véritable conflit éthique. Et ça peut aller très loin. Ça peut... Alors, il y a ceux qui partent et qui sauvent leur peau, mais il y a ceux qui, malheureusement, arrivent vraiment à des états psychologiques très, 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 très graves.
Stress, anxiété, jusqu'au suicide.
Oui, éventuellement, dans les cas les plus graves, oui.
Mais quand on parlait du fait que ça ne s'appelle pas mensonge, si on reprend les cas de l'affaire Volkswagen, d'ailleurs, on reprend les mots qui sont utilisés dans les articles, on parle de fraude à l'écriture, irrégularité.
Ça, c'est du mensonge. Ça,
voilà.
C'est du mensonge.
Mais en réalité, les mots officiels, y compris ceux utilisés par l'État allemand, par qui d'ailleurs a lui-même été floué, puisque Volkswagen recevait des aides publiques.
C'est une façon de féminiser. C'est une façon de féminiser.
On ne parle pas de mensonge quand un homme politique ment, par contre, il est très très vite quand même traîné dans la boue pour mensonge. Hein. Il suffit de se souvenir que de quelques grands cas.
Ce qui est intéressant chez Volkswagen, c'est qu'ils n'ont pas tenté de dissimuler. On est quand même... Après, on va me dire, il y a peut-être encore du mensonge dans le mensonge.
Moyens, ouais.
Mais on est quand même là actuellement dans une forme d'opération vérité qui, grâce aux réseaux sociaux, est une façon maintenant de gérer ces fameuses crises de réputation. Hein. C'est-à-dire arriver en essayant de mettre de la vérité dans ces mensonges.
Oui, mais là, on va voir, il y a un premier lièvre qui a été levé, on va voir combien pouvoir encore lever.
Mais, oui, tout à fait.
Pour l'instant, le groupe a perdu 40% de sa valeur en bourse.
C'est bien contre-productif de mentir.
Vous nous appelez au 331 84 22 71 71. Nous accueillons Rachid qui nous appelle en région parisienne. Bonjour Rachid.
Bonjour Emmanuel, bonjour à vos invités.
Vous sentez concerné par le sujet ?
Alors, moi je veux juste intervenir parce que vous parlez depuis le début de l'émission du monde des call centers, etc., qui pour moi c'est un secteur où il y a beaucoup de précarité, des petits boulots, etc. Bon, je travaille dans le monde du conseil, je suis avocat, mais ça c'est anecdotique, mais j'ai bien connu le monde du conseil. Et je voulais intervenir sur trois thématiques parce que je trouve votre intervenante très très optimiste et pour pas dire un peu naïve, et je dis ça avec beaucoup de respect à son endroit. Le premier point que je voulais souligner, c'est que pour moi, si on pose la question « pourquoi il y a ce mensonge ?», je crois que la réponse, malheureusement, elle est très simple, ça a été un peu dit par votre intervenant, c'est la pression économique. Oui,
la pression économique. Mensonge,
exactement.
Chômage, d'accord.
Tout simplement. Et pour moi, tant qu'il y aura cette pression dans le marché du travail, il y aura du mensonge encore et toujours, tout secteur confondu, malheureusement. Le deuxième point, c'est cette question de l'éthique, et moi je l'ai vécu personnellement. Je pense que c'est une mauvaise manière de poser la question, d'imaginer qu'un individu personnellement va faire lanceur d'alerte. Ça sera toujours l'exception. Je pense qu'à partir du moment où j'ai une organisation grosse entreprise, etc., quelque part, le salarié peut facilement lui faire endosser la décision et se dire « c'est pas de ma faute, je suis la politique ». Bien sûr, il y aura quelques révoltés, mais je pense globalement, au final, eh bien, il va se dire « j'ai fait ce que j'ai pu parce que moi, il faut que je paye ma maîtresse à la fin du mois, mon loyer, etc. » Et le troisième point où je suis assez en désaccord avec votre intervenante, c'est que je ne pense pas finalement qu'il y a tant de sanctions que ça à long terme. Je prends un exemple, mais d'abord j'ai mon idée. Pour moi, à long terme, les gens oublient. Alors, ils n'oublient pas forcément le scandale, mais ils se disent deux choses. D'abord, tout le monde fait pareil. Et deuxièmement, je n'ai pas le choix. Et je prends deux exemples. Le premier, c'est vous parlez de la téléphonie. Quand je veux aller me jeter un téléphone ou prendre un abonnement, j'ai trois, quatre prestataires. Si je me dis que tous me mentent, ben, au final, je vais retourner chez celui pour lequel il y a eu un scandale. Et je me souviens d'un reportage qui est passé sur RFI, c'était le matin, où un spécialiste parlait de Volkswagen et faisait remarquer que pour beaucoup de spécialistes, Volkswagen s'en tirerait très bien à long terme, oui, parce que les gens oublieraient, oui, qu'ils continueraient à acheter du Volkswagen. Et donc pour
non,
moi...
Non, mais ce que vous voulez dire, c'est où se dirait, ils ont tellement dû faire le ménage que voilà, la lessiveuse a lessivé Volkswagen et du coup le groupe est devenu honnête, c'est ce que vous voulez dire.
Voilà, tout à fait. Et Emmanuel, pour finir, exactement, ce que je voulais dire et faire réagir finalement vos intervenants, c'est que pour moi, il y a une seule leçon de ces problèmes, c'est que c'est à nous, consommateurs, d'être vigilants en toutes circonstances et de poser des questions. Et quand je vous dis ça, je reviens à mon point de départ. Moi, je travaille dans le monde du conseil. Ce qui est très frappant, c'est que le bonus Zolus ou la tromperie existe aussi bien pour vous vendre un abonnement téléphonique que pour vendre une prestation de conseil de haut niveau ou un produit bancaire. Et pour moi, le point, c'est que vous avez des gens, des clients qui ne posent pas les bonnes questions et qui sont dans une relation de confiance trop souvent à tort.
Merci beaucoup pour cette intervention. On a bien compris hein, vos analyses. Duarte Rollo, vous souhaitez réagir?
Ah oui, parce que là, c'est vrai qu'on est au cœur du sujet. Moi, je pense qu'il y a c'est tout à fait logique de pointer l'état du marché du travail, le chômage de masse, la précarisation des contrats.
Enfin, il y a du mensonge dans d'autres pays où il n'y a pas du chômage de masse de cette façon-là.
Tout à fait.
La preuve en Allemagne.
C'est tout à fait. C'est pour ça que moi je voulais rajouter un détail, c'est qu'il y a aussi les primes. Il y a les primes à la performance. Et ça aussi, ça joue. C'est-à-dire que si votre contrat devient un contrat d'objectif et qu'en fait vous avez un salaire qui est de base très proche du SMIC ou relativement peu important, mais que vous avez des primes considérables, ça aussi, c'est une façon d'inciter à ce type de pratique. C'est-à-dire le couplage entre des évaluations de performance individuelles et des primes à la performance fait qu'on va aussi, d'une certaine façon, construire des incitations à mentir.
Donc on construit des ressources humaines fondées sur le mensonge. En fait, vous dénoncez un mensonge érigé en système.
Alors, en tout cas, je pense effectivement que ce mensonge est devenu une conséquence, que dans beaucoup d'entreprises, on ne peut plus faire autrement. Tant qu'on persistera avec ces modes de gestion et d'organisation, on ne pourra pas faire autrement. Alors, tout en disant ça, moi, je suis obligé d'être un peu d'accord avec Isabelle Barthes aussi. C'est-à-dire que ça ne se passe pas pareil partout. Et ce n'est pas pareil d'être une grosse entreprise multinationale ou une petite entreprise familiale ou d'être une entreprise de pointe où on a besoin des savoir-faire et des compétences des salariés, de garantir leur permanence, ou plutôt d'être une entreprise jetable. Ce n'est pas pareil.
Je suis peut-être optimiste. Je ne pense pas être naïve. D'abord parce que j'ai travaillé en entreprise longtemps. Ensuite parce que je dirige une école de management et qui est une vraie entreprise. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, pour moi, c'est « so what ?» Qu'est-ce qu'on en fait ? Et je crois beaucoup à l'idée qu'on peut faire bouger les lignes. Avec ce type de photographies qui sont importantes, et le travail qu'a fait Duarte fait partie de tous ces travaux importants de dénonciation, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et moi, je suis quelqu'un qui dit à mes étudiants, si vous êtes dans la soumission et que vous pensez que vous ne pouvez rien changer, ça continuera. Par contre, si on est convaincu que la responsabilité managériale, c'est travailler sur le long terme, sur le vivable, parce qu'il y a le respect de l'environnement aussi, sur la reconnaissance de l'autre et sur en effet l'éthique et la confiance, vous ferez changer les choses. Je répète, une entreprise, ce n'est pas un truc tout seul, posé sur une étagère.
Comment se situent les jeunes générations ? Que vous répondent-ils quand vous avez ce type de discours, là, les jeunes que vous formez à être de futurs managers à la sortie de l'école de commerce ?
Les jeunes managers, contrairement à tous les clichés, dans les écoles de management, attendent ça. Ils ne sont pas dans ces caricatures qu'on nous sert. Ils veulent travailler dans des entreprises sur des projets. Ils veulent créer leur entreprise sur des projets à long terme. Ils veulent la confiance. Ils ont trop vu leurs parents, justement, être victimes de mauvaises pratiques. Mmh. Et on a vraiment des jeunes dans les écoles de management qui ont envie de travailler autrement. Et je peux vous dire que dans une école comme la mienne, on leur apprend, par exemple, à travailler sur des dilemmes éthiques. Vous disiez que j'enseignais le management commercial. Tous mes cours se terminaient par une étude de cas sur, justement, la souffrance au travail à cause de mauvaises pratiques managériales. Mmh. Et ça, il faut quand même le dire, parce qu'autrement, on sera toujours avec les méchants et les gentils. Je ne sais pas qui est gentil et qui est méchant dans l'affaire, mais sur ces formes de complicité où on ne peut rien faire. On peut bouger les lignes.
Vous avez le sentiment que, en revanche, le mensonge, on l'a bien vu, il est partout dans le monde, hein, mais du fait qu'il y a des objectifs commerciaux, des objectifs chiffrés partout.
Mais comme il y a des objectifs politiques,
et financiers, voilà. Vous avez le sentiment, en revanche, que le sujet de la souffrance au travail est un sujet très franco-français ?
Alors, ce que je voudrais, oui, c'est remettre tout ça dans une perspective internationale. C'est vrai que nous sommes quand même un pays riche, où on a la chance d'avoir ce genre de challenge, enfin de réflexion. Là, je reviens du Vietnam, par exemple, qui est un pays où travail est quelque chose d'extrêmement présent, avec une très forte vitalité. Et je ne pense pas qu'ils en soient, enfin, qu'ils se posent ce type de questions parce que leur rapport au travail est d'une nature différente.
Ah, ils sont dans la survie, clairement.
Non, non, non. Ah, non, c'est plus le Vietnam a dépassé quand même.
Bon, si on prend les usines
de
textiles.
Oui, non, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a justement toutes ces micro-entreprises, des gens qui travaillent, qui ont plusieurs jobs dans la journée. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait pas.
Plusieurs jobs, ça s'appelle la survie.
Non, 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 pas forcément. Mmh. Mais c'est, ce que je veux dire, c'est le rapport, le regard qu'on porte sur son travail. Mmh. Et ce que je voudrais pas, c'est que ce qui me fait de la peine pour les Français, c'est que le mot le plus fortement associé au mot travail est le mot souffrance.
La plainte.
Je pense qu'on peut aussi, voilà, être dans la plainte. Et je pense qu'on peut aussi se faire plaisir en travaillant, qu'on peut avoir des choses très intéressantes en travaillant, et du lien social, de la reconnaissance.
Duarte Rollo, votre réponse là-dessus.
Oui, oui, oui.
Parce que votre étude, votre doctorat, vous l'avez
fait. Duarte adore son travail.
Pour justement,
il se lève le matin, il est comme moi, il est ravi d'aller bosser. Oui. Et voilà,
bon,
il y a
moi,
aussi.
Moi, je pense qu'il faut faire attention un certain nombre de choses. Effectivement, c'est un privilège de riche de se poser des questions sur la souffrance au travail. Oui et non. Oui et non, parce qu'effectivement, on ne va pas parler de souffrance au travail dans des pays où il n'y a même pas de droit de travail, où des gens n'ont pas la liberté justement de se poser la question. En revanche, ce que je peux vous dire, et ça toutes les enquêtes le montrent, c'est que la souffrance au travail, elle existe partout et que c'est une expérience première. C'est une expérience. Tout le monde, à un moment donné, qu'il le veuille ou pas, souffre au travail. La question c'est, qu'est-ce que va devenir cette souffrance? Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que l'entreprise, est-ce qu'il existe des conditions dans l'entreprise pour reconnaître l'effort des gens? Est-ce que les gens ont les possibilités de discuter ensemble de leur travail? Est-ce qu'il y a un certain nombre de conditions sociales, organisationnelles qui sont en place pour que cette souffrance puisse aller justement vers quelque chose qui soit de l'épanouissement ou non? Ou est-ce qu'on est en gros condamné à se retrouver dans une impasse avec sa propre souffrance sans aucune voie de dégagement justement? Et ce qui se passe, c'est que un certain nombre de méthodes dans l'action du travail actuel empirent, génèrent, puis empirent cette souffrance jusqu'à la maladie. La souffrance en soi, si vous voulez, c'est pas un synonyme de maladie. C'est pas parce qu'on souffre qu'on va forcément détester son travail ou aller très mal. On a tous des moments plus ou moins
Il faut quand même bien dire que dans votre livre, vous expliquez bien qu'en réalité, il y a deux camps. Il y a un terrain très belliqueux dans ces milieux du travail où la relation commerciale est fondée sur le mensonge pour beaucoup, et une ambiance assez pourrie entre les salariés finalement, entre ceux qui jouent le jeu, qu'on appelle les vendeurs, et ceux qui ne jouent pas le jeu, qu'on surnomme les fonctionnaires, c'est bien cela.
Ou les glandeurs.
Les glandeurs, d'accord.
C'est un petit peu plus péjorative. Oui, mais ça, je pense que, si vous voulez, c'est rien de totalement nouveau, au sens où cette ambiance pourrie, on la retrouve dans énormément d'endroits aujourd'hui. Des entreprises où les gens ne se parlent plus, où il n'y a plus de pause café, où il n'y a plus d'arrosage ou de fête lorsqu'un collègue part à la retraite. C'est-à-dire que c'est à ça qu'on a abouti. C'est à ça qu'on a abouti, à une dégradation totale de la convivialité.
C'est aussi la rançon de la réduction du temps de travail, aussi beaucoup quand même, qui oblige à l'efficacité.
Oui, mais ça aussi, c'est un choix d'organisation.
Les gens ont plus de temps libre, par ailleurs.
C'est un choix d'organisation, c'est-à-dire de réduire tous les temps qui étaient considérés comme des temps improductifs. C'est-à-dire, on ne peut plus papoter, etc.
Mais c'est drôle parce que moi, je fais beaucoup de recherches sur les organisations, et c'est vrai que ça, c'est une description pour moi très années 80-90. Depuis une dizaine d'années, au contraire, je vois des choses se mettre en place qui recréent du lien social. Beaucoup d'entreprises, pas toutes, et je ne ferai pas l'amalgame dans le sens contraire parce que ça serait en effet naïf, parie justement sur retrouver du lien social, retrouver d'autres temps au travail, sur la reconnaissance. Les sujets, par exemple, de reconnaissance, de diversité sont maintenant rentrés dans les entreprises. Et je pense qu'il y a vraiment, vraiment dans les entreprises, je parle des entreprises françaises, un mouvement contraire qui s'est amorcé depuis à peu près une dizaine d'années avec des gens qui avancent sur ces sujets-là. Pourquoi aussi ? Et alors, ça peut être une façon de voir les choses qui est moins intéressante, mais parce qu'ils se rendent compte qu'un salarié plus heureux au travail, ça sera un salarié
productif,
qui sera peut-être plus productif, plus motivé, plus engagé, etc. Mais moi, je suis... Oui. Ces photographies
sur
me
le papier,
paraissent très années 80. J'ai plein d'exemples complètement contraires de ce qu'on voit là. Dire que ça n'existe pas.
Je dois dire que je suis un petit peu plus dubitatif que vous sur cet aspect. Là. Bon, je demande à voir, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a sur le devant de la scène tout un tas de discours sur la qualité de vie au travail, le bien-être, etc. Mais pour l'instant, cela reste des discours, j'ai l'impression. J'attends de voir, mais la vérité, c'est qu'on est, en général, les entreprises ne sont pas vraiment revenues sur les méthodes d'organisation du travail qui sont à la source de ce mal-être, quand même.
Ouais, moi, je termine une étude qui a duré 18 mois avec 16 entreprises sur la question, par exemple, de l'apparence physique et de son rôle dans le milieu du travail, qui est un vrai sujet de souffrance. Être jugé sur son apparence physique, avoir la gueule de l'emploi, etc. C'est des sujets...
Jugés et discriminés. Hein.
Et discriminés, mais c'est des sujets que maintenant dont les entreprises s'emparent. Parce qu'elles elles ont envie de
parce
s'emparer.
Parce que les primes aussi des managers sont calculées sur leur façon de faire
non,
la responsabilité
mais non, alors,
sociale
dans,
des entreprises.
La caricature. Bah, non, attendez, moi, si. je pense qu'il faut pas être. Je pense qu'il faudrait être quand même plus nuancé sur la capacité des entreprises à se régénérer. Qu'en effet, il y en a qui continuent à avoir des pratiques qui sont complètement dénonçables et on doit les dénoncer ensemble. Il y en a d'autres qui avancent.
Donc demain, tous honnêtes au travail.
Moi, je sais pas.
Prime à l'honnêteté, ça serait imaginer ça.
Serait du
j'attends
fantasme.
De voir. Je pense que pour l'instant, on n'en est pas.
Merci en tout cas à tous les deux. Duarte et Rollo, ça s'appelle Mentir au travail aux éditions Presse Universitaire de France. Votre étude porte sur les centres d'appel, mais c'est un vrai concentré du monde professionnel à découvrir. Absolument. Isabelle Barthes, vous avez publié le dernier ouvrage, c'est Savoir désapprendre pour réussir aux éditions EMS et vous dirigez l'école de management de Strasbourg. Merci à tous deux d'être venus.
Merci.
Demain, 7 milliards de voisins. Nous serons de retour pour une nouvelle émission. À demain, les voisins.
Série de reportages